Alors cette semaine, je méditais avec les disciples en observant comment le Seigneur a appelé les disciples à former une équipe de disciples. Et donc voilà, c'est votre cas. Le Seigneur vous forme pour être des disciples. Et je vais donc lire d'abord Jean 1, 35 à 44. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi, ce que signifie maître, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Et il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Donc les deux premiers disciples étaient déjà disciples de Jean. Ils sont réorientés vers Jésus par la parole de Jean « Voilà l'agneau de Dieu ». C'est la parole déterminante. André est l'un des deux. Il amène son frère Pierre. Philippe est rencontré directement par Jésus, mais il est de la ville d'André et de Pierre. Jésus a aussi appelé Jacques et Jean. Si nous allons dans Matthieu chapitre 4, verset 21. Voilà, à partir du verset 18, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Il est probable que Pierre et André soient retournés pêcher après le premier appel que nous trouvons dans Jean. Et Jacques et Jean étaient des associés de Simon, est-il dit dans Luc au chapitre 5, lorsque nous lisons du verset 1 jusqu'à 11, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. » Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc, les six premiers disciples, donc, voilà, font donc partie d'un cercle finalement très restreint de jeunes hommes qui se connaissaient. Les deux premiers, ensuite, parmi les premiers, il y a André et donc ensuite Simon, Jacques et Jean, et Philippe. Et puis, après, il y a aussi Nathanaël, puisque si Philippe a rencontré directement, si Jésus a rencontré directement Philippe, eh bien, Philippe, lui, verset 45 de Jean 1, rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre dessus du Fils de l'homme. » En voici donc un septième qui est amené à Jésus par Philippe. Et il est louangé par Jésus. On le retrouve donc après la résurrection au chapitre 21 de Jean, lorsqu'il est dit que, au verset 2, « Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alors, on retrouve donc Nathanaël après la résurrection. Et il est probablement le Barthélemy qui est indiqué dans Matthieu, chapitre 10, verset 3. Parce que curieusement, dans cette liste, le nom de Nathanaël n'apparaît pas. Et voilà, les commentateurs, en analysant les différents textes, pense que finalement le Barthélemy de Matthieu c'est Nathanaël, et il est aussi question dans Jean donc chapitre 21 d'un autre qui était aussi tout proche dans la même équipe, c'est Thomas appelé Didyme. Alors Thomas, il n'est pas dit à quel moment et dans quelles circonstances Jésus a appelé Thomas. Mais nous le trouvons très engagé pour aller mourir avec Jésus. Dans Jean au chapitre 11, on ne prête pas tellement attention à cet épisode, alors que Jésus va aller pour ressusciter Lazare, mais que sa vie est déjà, on peut dire, menacée par les Juifs. Donc au chapitre 11, verset 16, eh bien, Thomas, donc lorsque Jésus vient de dire, mais allons vers lui, allons vers Lazare, hein, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Vous voyez l'engagement de Thomas vis-à-vis de Jésus. C'est pour ça que Thomas, on le réduit souvent à sa réaction après la résurrection, lorsqu'il a désiré voir Jésus pour croire, hein, versets 24 à 29 du chapitre 20. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Mais les interventions de Thomas ne se limitent pas à cela. Au chapitre 14, c'est lui qui permet à Jésus d'aller plus loin dans un de ses enseignements. Lorsque, au verset 4, Jésus dit, « Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors c'est curieux parce que dans cet épisode, Jésus se montre comme étant la manifestation du Père, et il dit à Thomas, vous l'avez vu en me voyant, et Philippe, c'est à ce moment-là que Philippe renchérit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Et voilà ce Jésus à travers lequel les disciples peuvent voir le Père. Eh bien, c'est lui que Thomas veut à nouveau voir à la résurrection afin de croire. Donc, il fait partie de ceux qui vont à la pêche à nouveau, 7 disciples qui vont à la pêche ensemble. Et ils ont le privilège à ce moment-là, parce que la pêche n'a rien donné, eh bien, ils ont le privilège que Jésus, à nouveau, se manifeste dans sa grâce et sa puissance et leur permet de faire une belle pêche, ce qui amène Pierre à retourner vers Jésus pour l'adorer. Et puis, ils seront nourris par Jésus et il y aura la restauration de Pierre dans cet épisode. Alors, pourquoi est-ce que j'ai essayé d'aller un peu plus loin, mais il y en a d'autres. Hein. Bien sûr, Lévi, qui a été rencontré ensuite. Et puis, plusieurs autres qui sont mentionnés parmi les apôtres, ceux qui sont devenus apôtres. Mais ce qui m'a intrigué dans comment le Seigneur appelle les disciples, c'est qu'il semble que, voilà, ils pêchent et ils sont appelés. Jean, donc, chapitre 1, versets 35 à 44, le Seigneur les appelle individuellement ou ils sont amenés à Jésus. Mais ensuite, il semble que les disciples soient retournés à leurs occupations, ils sont retournés pêcher, et c'est dans un deuxième temps où le Seigneur va les appeler à le suivre, à l'accompagner pour son ministère. Et nous voyons donc dans Luc au chapitre 5 que c'est aussi l'occasion de la pêche miraculeuse. Et donc le Seigneur, à partir de ce moment-là, qu'il va leur avoir permis cette pêche miraculeuse, il va leur dire, il va leur donner leur principale mission qui va venir. Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc, ils pêchent, ils sont appelés, ils se remettent à pêcher et ils sont vraiment cette fois-ci appelés à suivre Jésus et ils s'engagent avec Jésus. Ils reçoivent son enseignement, ils assistent à ses miracles, puis jusqu'à la croix. Et Jésus ressuscité leur apparaît. Hein, nous le voyons donc dans les évangiles, et ils peuvent à nouveau voir et croire en celui en qui ils ont mis leur confiance. Pour autant, ça a duré 40 jours le temps où Jésus donc, est apparu à ses disciples et jusqu'à ce qu'il monte au ciel. Pour autant, eh ben, ils vont encore une fois pécher. Ils reprennent leur activité habituelle, même après la résurrection. Ils retournent pécher et c'est Jésus qui va venir à nouveau bouleverser leur emploi du temps, restaurer Pierre. Et on peut dire que quand on est disciple de Jésus, eh bien, il faut toujours s'attendre à l'intervention de Jésus dans nos activités. Et donc, jusqu'à l'ascension de Jésus, eh bien, les disciples, finalement, restaient des hommes actifs, engagés dans leur leurs actions sociales, dans leur travail, dans leurs responsabilités humaines. Mais ensuite, il y a eu l'élévation de Jésus, donc le jour de l'ascension. Et là, il y a une période de battement de 10 jours. Et là, ça a été l'attente. Ils ont attendu. Là, ils étaient dans la chambre haute pendant 10 jours. Ils n'ont rien fait d'autre que d'attendre ce que le Seigneur avait promis. Là, ils n'étaient déjà plus dans l'activité humaine. Et puis, le Saint-Esprit est venu. Et alors, à ce moment-là, ça a vraiment tout changé dans leur vie. À ce moment-là, on ne les voit plus aller pêcher les poissons. Ils vont être engagés véritablement à ce moment-là comme pêcheurs d'hommes, et ils vont devenir ces hommes donc qui vont parcourir la vaste mer, hein, pour faire l'œuvre de Dieu, du témoignage, et ainsi ramener donc au Seigneur tous ceux qui doivent être sauvés, hein. Et là, ils ne pêcheront plus, ils ne pratiqueront plus leur activité habituelle. Quoique, lorsque nous voyons Paul, par exemple, qui était faiseur de tentes, à un moment donné, dans son ministère, il a quand même exercé son métier. Mais donc voilà, Jésus se révèle, il constitue une équipe, d'abord à partir d'un cercle restreint, une communauté où l'on se connaît. Finalement, les 7 premiers disciples, c'était des associés, des frères, des cousins, tout le monde se connaissait. Alors, c'est une, on peut dire, Jésus a pris les hommes dans, on peut dire, cette relation facile de frères et d'associés, hein, et pour en faire des disciples. Alors, c'était, on peut dire, une facilité de démarrer avec un groupe qui se connaissait déjà, mais d'un autre côté, le frère l'a mentionné, entre frères, etc., il y a aussi beaucoup de difficultés, beaucoup de jalousie, beaucoup de problèmes à régler, et donc ce n'était pas forcément si facile que ça. Et on voit les apôtres, les disciples, donc dans l'évangile, qui parfois disputent entre eux, etc. Comment ça se fait que lui va être le plus grand, et bon, donc c'était une équipe à gérer aussi, avec des relations qui n'étaient pas forcément si faciles que cela. Mais en tout cas, un groupe quand même au départ qui se connaît et auquel le Seigneur a ajouté d'autres personnes d'origines diverses. On voit donc Matthieu, qui lui était parmi les publicains, qui n'est pas du même cercle. Et puis ensuite, il y a 2-3 autres, dont un Jacques, fils d'Alphée, un Simon, le zélote, c'est-à-dire quelqu'un certainement qui était dans un mouvement politique contre les Romains. Et voilà, après, le Seigneur a agrégé d'autres qui voilà, qui n'avait rien à voir avec l'équipe du départ, et c'est avec tout cela qu'il a formé donc son équipe d'apôtres. Alors, ce que je constate, c'est que la consécration se fait en plusieurs temps. Il y a des temps de retour en quelque sorte à la vie civile, mais à partir du don du Saint-Esprit, du temps de la mission, là c'est la pleine consécration. Et c'est plein feu sur l'œuvre à accomplir. Non plus seulement être des disciples qui reçoivent, qui sont à l'écoute du Maître, qui sont instruits, mais des apôtres, des envoyés qui vont apporter, donner, instruire les autres. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus de limite à leur engagement. Ils sont totalement consacrés à l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés. Donc, je vous dirais, observez vous-même comment le Seigneur vous a rassemblé pour être ses disciples dans votre contexte, dans notre contexte local. Le Seigneur a agrégé en quelque sorte plusieurs pour être une équipe de disciples. Et très concrètement, localement, le Seigneur a utilisé donc des membres d'une même famille, a rassemblé des membres d'une même famille, des frères, des cousins, des neveux, des nièces. Et il les met à l'œuvre ensemble, il les met à l'écoute ensemble, il leur montre ses œuvres. Et puis ensuite, il a ajouté d'autres, et il est encore en train d'en ajouter d'autres. Et voilà, il vous instruit, il vous met à l'œuvre. Et considérez aussi comment il vous laisse du temps pour retourner aussi à vos occupations civiles. Vous êtes disciple, vous êtes engagé, mais vous avez aussi des responsabilités dans la vie. Mais aussi, soyez prêts pour le jour où il va vous lancer sur les grandes eaux. Parce qu'une fois embarqué sous la conduite du Saint-Esprit, eh bien, il n'y aura plus de vie personnelle qui compte. S'il plaît à Dieu de vous donner une mission particulière dans son œuvre pour atteindre des perdus, eh bien, à ce moment-là, ce sera le total engagement, la totale consécration donc à cette œuvre. Et j'ai fait la comparaison avec des entreprises. Je voyais encore hier un reportage sur la vie d'une entreprise où les salariés sont motivés à s'engager totalement, etc. Et puis on voit régulièrement ce genre d'approche où les managers, etc., font en sorte de créer un esprit d'équipe, un esprit de famille, et puis ils mettent à l'œuvre les employés pour en tirer le meilleur. Et ils les exploitent tellement, et ils les pressurent tellement qu'à un moment donné, ça devient insupportable. Parce qu'à l'origine, il y a une volonté humaine. Mais pendant un certain temps, donc, il y a vraiment un engagement commun parce que la société leur a permis d'avoir un emploi, il y a un engagement commun à faire tout et à se consacrer totalement à l'entreprise pour pouvoir la faire se développer et s'épanouir soi-même dans son travail. Et on trouve le même phénomène dans les sectes. Hein, lorsque quelqu'un a réussi à convaincre, à attirer et à agglomérer un groupe pour former donc une équipe, une communauté qui ne pense plus que simplement à travers cette œuvre, eh bien, il y a des gens qui sont totalement engagés, qui renoncent à tout, qui quittent même parfois leur famille, etc. Hein? Et puis tout le monde est embarqué et n'a plus qu'une seule préoccupation, c'est de faire développer ce groupe. Alors, ce sont deux exemples qui, bien sûr, pour lesquels on peut dire, ben oui, mais justement, il ne faut pas agir comme ça dans l'Église, hein, parce que c'est exploiter la personne humaine, c'est exploiter sa bonne volonté, c'est exploiter ses possibilités. Hein, et effectivement, si une Église fonctionne à la manière d'une société commerciale ou à la manière d'une secte où tout le monde est sollicité, pressurisé, mis à l'œuvre sans plus aucune liberté personnelle, etc. Oui, non, elle n'est pas dans l'œuvre véritable de Jésus-Christ. Mais lorsque c'est le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même qui se révèle, qui met à l'œuvre, eh bien, le résultat, il est le même. Il est qu'il y a vraiment un engagement total, avec cette différence, c'est que le Seigneur sera toujours avec ses disciples, avec ses apôtres, avec ses envoyés, avec ses enfants, pour les soutenir, pour les garder, pour leur donner aussi la sagesse par rapport à leurs capacités, par rapport à ce qu'il leur demande, et il les mènera à travers cet engagement total avec un parfait soutien de sa part, et il les mènera donc jusqu'à la fin de l'œuvre qu'il leur a donnée. Alors cherchons surtout à être inspirés par le Seigneur lui-même pour former des équipes qui puissent rayonner, faire rayonner le royaume de Dieu. Et comme je disais hier dans le partage que nous avions avec les quelques-uns qui étaient réunis pour le CVE, eh bien, là, actuellement, l'œuvre a démarré à partir de Lambersart, mais il est très possible que le Seigneur aussi envoie et permette le développement d'un groupe de disciples dans des villes donc un peu plus éloignées, Péranchy, Armentières ou Marquette, et que le Seigneur demande à ce moment-là à l'un ou à l'autre d'être totalement investi dans le développement de cette œuvre-là. Hein. C'est le Seigneur qui le montrera, qui guidera. Mais soyons prêts à cela, à être équipés et visités par le Saint-Esprit pour que, au moment où lui le demande, eh bien, il n'y ait plus qu'une seule, un seul objectif, une seule dimension à notre vie, la prédication de la parole, la communication de la foi, la capacité d'amener le salut là où il n'est pas encore prêché. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu à chaque fois que nous voyons qu'il a déjà préparé des disciples. Il est déjà en train de les instruire, en train de les mettre à l'œuvre avec lui. Mais soyons aussi prêts à ce qu'il fasse une œuvre particulière qui demande l'engagement à la consécration totale. Ça a été le cas beaucoup au XIXe siècle avec les grands missionnaires qui sont partis en Afrique, en Chine, et qui ont totalement renoncé à tout pour aller apporter la parole là où elle n'était pas encore prêchée. Et ça a donné des œuvres, hein, si l'on pense à Charles Studd, Hudson Taylor et ces hommes-là, où il n'y avait rien d'autre comme activité que d'annoncer la parole de Dieu pour ceux qui étaient appelés. Donc, demandons cette grâce à Dieu d'être aussi un lieu, un centre, et à un moment donné, une communauté dans laquelle le Seigneur puisse redonner cet engagement total pour l'évangélisation du monde. Amen.